pouvez peut-être parler du projet sur lequel vous travaillez actuellement.
Comme disait Sandra, effectivement, il y a une évolution hein, à partir de 2014-2015 avec des questions qui touchent au vivant, mais qui ont impliqué aussi d'aborder différemment le travail, notamment plutôt que d'être dans des logiques de code, plutôt d'être dans des logiques d'interactivité ou de temps réel. On est rentré dans des questions de biologie, de chimie. Il y a plusieurs projets qui ont découlé. Il y en a un assez récent, il y a 2 ans, qui a été réalisé avec Dorian Runkriller, qui s'appelle l'urinotron, qui consiste à une pile à base d'urine. Donc ça produit de l'électricité à base d'urine, et c'est une réflexion aussi sur l'énergie et comment, à partir d'un déchet qui nous est commun à tous, hein, familier, mais ça reste un déchet par définition, comment ça peut devenir productif. Donc là, il y avait la notion par rapport au vivant du microbe qui pouvait intervenir. De cette démarche-là, on a continué sur la notion d'énergie et on est arrivé à réfléchir aussi sur l'énergie dans un sens plus global. Comment dans l'environnement, dans la nature, dans le corps humain, dans l'atmosphère, il y a aussi des effets et il y a aussi des relations d'énergie qui se font, qui existent. Et donc on a initié un cycle. C'est même pas un projet, c'est un cycle de projets qu'on a intitulé MyCore. MyCore fait appel à la notion de remédiation qui est utilisée pour définir la dépollution des sols à l'aide de champignons. Donc, à un moment, une agriculture intensive ou un contexte industriel, eh bien, comment à un moment le champignon, un organisme naturel, avec ses qualités, ses propriétés, serait en mesure de rendre un sol de nouveau viable. De ça, on a tiré le fil, j'aurais tendance à dire on est rentré dans le mycélium, dans ce réseau géant, parce que le champignon avait une multitude de propriétés extrêmement passionnantes, notamment sur les questions de symbiose avec le milieu qui l'environne, avec les arbres, avec la faune, avec les plantes, comment du coup le mycélium lui-même constitue un réseau qui ne concerne pas que lui-même, et ça nous a énormément intéressé en termes d'analogie par rapport à la question du numérique, du réseau, de l'Internet. Et on s'est dit aussi que, outre cela, il y avait toute une mythologie qui se développait autour de l'idée du champignon. Le champignon comme ce qui nous nourrit, mais qui a des propriétés aussi thérapeutiques, chimiques, ou qui peut être un poison. Donc la notion de pharmacone, une notion ambivalente entre le remède et le poison, nous intéressait beaucoup, parce que dans notre travail, il y a une notion un peu d'ambivalence. Jusqu'où, qu'est-ce que ça veut dire travailler avec du vivant, jusqu'où ça peut être productif, positif, ou au contraire ça peut jouer contre nous, c'est-à-dire à un moment, dans l'exemple de Sandra sur Viridis, la ferme à spiruline, jusqu'où la communauté est prête à piloter, gérer une ferme à spiruline et ne pas faire n'importe quoi, donc jusqu'où à un moment on est capable d'être responsable ou respectueux du vivant, ou au contraire on décide de pousser les limites d'un dispositif, d'un protocole à ses limites pour voir qu'est-ce qu'il en ressort. Bien là, dans le cas des champignons, c'était pareil, il y avait une vraie ambivalence. On se disait, à la fois, c'est positif, il y a plein de choses dont on pourrait s'inspirer. On pourrait être dans une approche, effectivement, qui est celle qu'on voit dans le biomimétisme, s'inspirer du vivant pour produire ensuite des technologies plus efficientes, plus efficaces, ou développer des interfaces technologiques qui compléteraient à un moment le champignon. Et inversement, on avait envie justement de travailler sur ce contrependant. Cette espèce de face noire qui est, oui, le poison, mais c'est pas que le poison, ça peut être vraiment le combat des forces et le combat des énergies.
On a proposé un récit dans lequel l'humain, qui doit faire face à ses propres limitations, parce qu'il n'est pas capable de gérer correctement son écosystème, il est en train de s'auto-détruire et de détruire les espèces vivantes autour de lui. Donc cet humain qui se rend compte que, voilà, la façon même dont il a évolué, n'est plus capable de gérer la situation, va se tourner vers des nouveaux rites, vers des nouvelles croyances, vers des syncrétismes autour de la mycorémédiation. Donc la mycorémédiation qui est appliquée à l'humain, et donc le champignon qui s'empare de l'humain pour justement le reconnecter à son monde. Voilà, ça c'est le récit, et donc ce récit nous permet de déployer plusieurs modules pour illustrer, pour questionner ce postulat. Donc on a créé plusieurs modules et le module en question pour lequel nous sommes ici en résidence s'appelle Yells at Rheuma, qui consiste en la colonisation d'organes humains par ce qu'on appelle donc le Physarum polycephalum, qui est aussi bien connu sous le nom de blob, et qui est en lui-même un un organisme vivant très mystérieux et à la fois très intelligent, qui est source de beaucoup d'imaginaire et en même temps qui est beaucoup étudié de manière prospective et pour l'innovation justement. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte d'ambivalence, hein, puisqu'on est sur le régime de l'innovation et en même temps c'est un organisme qui est très 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 ancien, qui dans l'arbre phylogénétique est plus ancien que les eucaryotes, qui voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Donc parmi les études dont il fait l'objet, on l'utilise notamment pour résoudre des problèmes, des problèmes complexes et pour trouver le bon chemin. Voilà, ça a été utilisé pour optimiser des routes, les métros. Donc c'est celui qui trouve le chemin, le physarum, le meilleur chemin. Et qui ensuite va savoir parfaitement utiliser ses ressources. C'est un organisme qui est très raisonné, d'une certaine façon. Enfin, là, je parle par analogisme, hein, mais oui, c'est un peu ça. Et donc, nous, on lui propose de venir coloniser les organes humains, alors pas n'importe quels organes, c'est-à-dire qu'on s'appuie dans notre récit sur des croyances et des mythes. Notamment, on est allé chercher du côté du corps humain des énergies. Donc, on est allé voir du côté des croyances, notamment en médecine traditionnelle chinoise, en acupuncture, où la question de l'énergie est très, très présente. Et donc, certains organes sont des organes qui sont plus ou moins évocateurs, plus ou moins importants. Et ce sont ces organes-là qu'on a choisis pour être colonisés.
Donc, c'est des organes que vous avez numérisés en 3D.
Alors on s'appuie effectivement sur de l'imagerie médicale. On s'appuie sur l'imagerie médicale, des modélisations en 3D d'organes. Donc ce ne sont pas des remodélisations de zéro à partir de planches anatomiques, c'est vraiment des scanners médicaux. Donc on a des résolutions et ce sont ensuite des modèles 3D qui sont crédibles, hein, par rapport à ce qu'est un organe humain. Et ensuite on les imprime. On les imprime en 3D avec du filament de PLA. Ça pourrait être autre chose, mais on a fait ce choix-là du PLA parce que c'était intéressant de réfléchir aussi au processus d'imprimer en 3D qui pourrait en quelque sorte résumer l'idée même de la fabrication. C'est-à-dire que le projet Yéla Satrauma, on le qualifie presque comme un combat qui se joue entre plusieurs entités. Il y a une entité naturelle, évidemment, qui est le physarum, le blob. Il y a une entité synthétique, le plastique, qui est ce volume 3D, cet organe fait à travers un outil, qui est donc l'objet à un moment de l'industrie, du savoir-faire de l'homme. Et puis il y a une entité qui est une entité plus virtuelle, qui est électronique ou numérique, et qui est le son. Puisqu'au fur et à mesure que le physarum se déplace sur les organes, il y a un travail sonore qui est lui-même soumis à une évolution, à une transformation. Et ce travail sonore, c'est une forme de langage. Ce sont des balbutiements, des grognements, c'est une espèce de langage qui essaie de se construire. Donc pour ça, on s'est appuyé sur le détournement d'une puce de dictée magique et qui reprend des phonèmes, qui reprend des syllabes, qui essaye des fois qui déconstruit des mots. Et notre idée, c'est que dans le projet, le physarum, évidemment, définit ses propres chemins, il explore des territoires, les organes, en trouvant les chemins les plus efficaces, et qu'au fur et à mesure, progressivement, il puisse impacter sur le cours de cette production sonore. Donc, en substance, on pourrait dire de façon assez simple, imaginons on a 200 possibilités d'interaction, le physarum, il va définir des chemins, il va peut-être pas prendre les 200, il va peut-être en prendre 40 ou 30, mais on ne le sait pas à l'avance. Et c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est dans quelle mesure le fait de déléguer au physarum l'exploration et ensuite un chemin qui lui est propre, on n'arrive pas à décider à l'avance. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on l'utilise en laboratoire pour des optimisations de cartographie ou de réseaux autoroutiers ou aériens. C'est parce que de lui-même, à un moment, il définit ses propres règles et il va aller à l'efficacité, il va définir son propre chemin. Donc c'est aussi évolutif. C'est évolutif parce que c'est conditionné par le physarum, mais c'est évolutif aussi dans le sens où d'une exposition à une autre, le visorum pourra emprunter d'autres chemins. Il y a quelque chose pour nous qui est presque lié à une espèce de combat entre des forces du chaos et des forces ordonnées. On part toujours de l'idée qu'il y a des conditions de dégradation naturelle. Toute situation est amenée à se dégrader. Il suffit d'un infime facteur extérieur, le soleil qui va taper à un moment sur la bulle de verre suffisamment pour que la température monte. Du coup, il va essayer d'éviter le soleil. Du coup, il va prendre un autre chemin. Qu'il y ait trop de lumière artificielle, qu'il y ait trop de bruit, qu'à un moment il n'est pas assez à manger. Il y a plein de facteurs qui peuvent à un moment produire une multitude de scénarios complexes et des scénarios qu'on ne sera même pas nous-mêmes en mesure de définir. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est à la fois mettre en place des conditions d'existence et d'évolution pour un organisme vivant. Il ne s'agit pas de le séquestrer non plus, hein, ce physarum, mais on essaie de mettre en place des conditions approprié, mais en même temps de voir comment lui il va faire évoluer le travail sans que nous on ait été en mesure à l'avance de pouvoir tout prévoir. Donc notre boulot c'est presque un travail de préparation et de préparation et ensuite d'observation comme des scientifiques. D'ailleurs on procède beaucoup comme ça par hypothèse. On émet une hypothèse, on regarde qu'est-ce qu'elle donne, on note si ça fonctionne ou pas ou comment ça fonctionne plus ou moins et ensuite on resserre ou on introduit de nouveaux facteurs.